l'atelier du pouvoir.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux.
La France.
Dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue.
C'est pas la gauche.
Pourquoi pas de la fête ?
La France.
Et de la liberté.
C'est pas la droite. La France.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer.
La politique, dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens.
L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vider.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vider, bonjour à tous.
Bienvenue dans l'atelier du pouvoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle plongée dans notre vie politique que nous faisons chaque samedi de 12h50 à 13h30 sur France Culture. Alors vous le savez, dans quelques jours, le Conseil constitutionnel va changer de président. Laurent Fabius va succéder à Jean-Louis Debré qui était à la tête de l'institution depuis 9 ans. Parallèlement, deux autres nouveaux venus vont faire leur entrée, rue de Montpensier. Il s'agit de Corinne Luquien, qui était jusque-là secrétaire générale de l'Assemblée nationale, nommée par le président de cette même Assemblée, Claude Bartolone, et puis Michel Pinault, conseiller d'État, choisi, lui, par Gérard Larcher, le président du Sénat. Trois nouveaux membres, donc, dont l'entrée en fonction est prévue la semaine prochaine. L'occasion pour nous de nous pencher sur la place et le rôle du Conseil constitutionnel dans notre 5e République, une institution créée en 1958 et dont le fonctionnement, nous le verrons, a beaucoup évolué depuis, et notamment ces dernières années, mon cher Vincent.
Il en va du Conseil constitutionnel comme de nombreuses institutions de notre République qui n'en manquent pas d'institutions. On sent bien que c'est important, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Et pourtant, on a pu assister depuis quelques années à une véritable montée en puissance du Conseil constitutionnel, devenue plus visible qu'auparavant. On l'a vu censurer plusieurs lois transmises par le gouvernement depuis 2012, de la taxe des 75% à la loi sur le harcèlement sexuel. On se souvient aussi de son invalidation des comptes de campagne du candidat président Nicolas Sarkozy lors de la dernière élection présidentielle pour un dépassement du plafond légal autorisé. Chargé de vérifier que nos lois sont en accord avec la Constitution et depuis 2008 de traiter les contestations par les citoyens de leur constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s'est donc affirmé sous la présidence de Jean-Louis Debré, posant la question essentielle de son rôle. Pour certains, le Conseil outrepasse sa mission, qui doit être avant tout juridique, d'observer les dispositions législatives et de les évaluer quasi mécaniquement. Pour d'autres, il doit disposer d'un pouvoir politique, philosophique, dont l'enjeu est de contrebalancer les excès éventuels de la sphère politique. Cette question est directement en lien avec la composition du Conseil. Le remplacement de Jean-Louis Debré par Laurent Fabius à sa tête a réveillé les critiques de ceux qui jugent que la nomination d'un homme politique issu du gouvernement à une telle fonction est une mise en cause de la séparation entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Et les mêmes sagaces que l'on juge qu'il suffit d'avoir exercé des fonctions ministérielles pour s'improviser juriste de haut vol. Alors, à quoi sert le Conseil constitutionnel ? Quelles sont ses missions et ses pouvoirs ? Le quotidien de ses membres ? En quoi consiste cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité dont on entend tant parler ? Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui avec nos invités dans ce nouvel atelier du pouvoir consacré au pouvoir du Conseil constitutionnel.
Et nos invités, tout d'abord Pierre Jox, bonjour.
Ancien
ministre de l'Industrie, de l'Intérieur et de la Défense de François Mitterrand, ancien premier président de la Cour des Comptes, mais aussi, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, ancien membre du Conseil constitutionnel, c'était entre 2001 et 2010. À vos côtés, Vanda Mastor, professeur de droit à l'Université de Toulouse.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes auteur de nombreux travaux, articles et livres sur le Conseil constitutionnel. Et puis, pour notre séquence internationale, dans une vingtaine de minutes, nous irons aujourd'hui aux États-Unis pour nous intéresser à la Cour suprême, dont nous pensons qu'elle ressemble beaucoup à notre Conseil constitutionnel. Nous essaierons de démonter quelques idées reçues. Et pour tout cela, nous serons avec Elisabeth Zoller, qui est professeure de droit constitutionnel à l'Université Paris 2.
C'est pour rétablir la règle du régime parlementaire face à un régime qui était devenu un régime d'assemblée que le Conseil constitutionnel a été créé. C'est un régime d'assemblée que celui qui permet à un parlement de faire des lois qui automatiquement sont supérieures à la Constitution. c'est un régime d'assemblée, que celui qui permet d'invalider des députés, ou des, alors même que la loi est formelle en leur sens, c'est un régime d'assemblée, que celui qui fait que le règlement des assemblées est supérieur non seulement à la loi, mais à la Constitution. C'est pour rétablir le bon fonctionnement du régime parlementaire que le Conseil constitutionnel a le contrôle de la constitutionnalité, que c'est lui qui statuera sur les demandes d'invalidation et que c'est lui qui assurera le respect par les assemblées dans leur règlement des lois fondamentales de la République. Aux États-Unis, n'importe qui devant n'importe quel tribunal peut contester la valeur de la loi au regard de la Constitution. Dans notre état d'esprit, il est probable que ce mécanisme eût été source d'anarchie. Il n'est pas bon que n'importe quel citoyen puisse prétend à contrôler la loi. Alors, le Conseil constitutionnel est un instrument valable, mais à la disposition de quatre personnages seulement, le président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux assemblées. Ce sont ces quatre personnages qui, individuellement et séparément, pourront saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'une loi leur paraîtra inconstitutionnelle. Et en ce qui concerne certaines lois et les règlements des assemblées, au surplus, le Conseil constitutionnel sera automatiquement saisi.
La voix dynamique et tonitruante de Michel Debré, qui était à l'époque garde des Sceaux. Nous étions le 5 septembre 1958. C'était une conférence au Cercle républicain. Il détaillait la nouvelle Constitution. Bonjour Pierre Jox.
Bonjour.
Michel Debré, il y a une soixantaine d'années, disait que le Conseil constitutionnel avait été créé pour rétablir, disait-il, le bon fonctionnement du régime parlementaire et contrebalancer, c'est le mot qu'il emploie, le régime d'assemblée. Est-ce que c'est comme ça que vous définiriez le rôle du Conseil constitutionnel, Pierre Jox?
Non, Michel Debré disait ce qu'il voulait. Ce qu'il a décrit, d'ailleurs là, c'est le Conseil constitutionnel. Première mouture, ce qu'il a décrit, ça n'a presque plus rien à voir avec le Conseil constitutionnel aujourd'hui, qui, au contraire, justement, dont la saisine est ouverte soit à quelques dizaines de parlementaires, députés ou sénateurs, soit à travers la question prioritaire de constitutionnalité à n'importe qui, comme dirait Debré. Donc là, c'est un flashback étrange, intéressant, parce que on voit Debré en pleine forme, là, enflammé, et se posant en défenseur du régime parlementaire. C'est une farce. Le régime parlementaire, Debré n'en voulait pas, il l'a montré quand il était Premier ministre. Donc sortons de la galerie des ancêtres et regardons le Conseil constitutionnel d'aujourd'hui, parce qu'il n'a presque plus rien à voir avec celui de la Constitution de 58.
Alors justement, Vanda Master, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre Pierre Jox dire « le Conseil constitutionnel n'a plus rien à voir avec celui de 58 ». Quelle est sa différence? Quel est son rôle et son pouvoir aujourd'hui?
Déjà, c'est très émouvant d'entendre Michel Debré, puisque ce texte est souvent très commenté par nos étudiants de première année en droit constitutionnel. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Jox. C'est très ancien. Vous dites que ça fait partie de la galerie des anciens, mais c'est très intéressant, justement, de rappeler l'historique du Conseil constitutionnel. En 1958, déjà, il s'appelait Conseil, mais on va pas revenir sur les raisons, puisqu'en France, on vivait sous le dogme de la souveraineté absolue de la loi, le Parlement ne pouvait mal faire, etc. Ça n'a effectivement plus rien à voir. Et Monsieur Jox dit que c'était effectivement le Conseil premier mouture. Ça a quand même duré longtemps. Oui. Et ensuite, le Conseil constitutionnel a eu, M. Badinter disait, une seconde naissance en plusieurs étapes très importantes. La première, c'est 16 juillet 1971, la fameuse décision liberté d'association, où il n'est plus seulement régulateur des pouvoirs publics, mais défenseur des libertés. Et puis après, 74, et l'ouverture, bien sûr, de la saisine aux parlementaires. Pour moi, ce sont les deux premières étapes importantes, et puis la troisième, la QPC.
Et aujourd'hui, du coup, son rôle de défenseur des libertés, est-ce qu'il vous semble que c'est le rôle principal du Conseil ?
Alors, principal, tout dépend de la grille de lecture. Si on prend les statistiques, le Conseil constitutionnel rend en ce moment entre 20 et 25 décisions dans le cadre du contrôle a priori.
Pour le contrôle a priori, c'est quand une loi est votée avant qu'elle soit promulguée.
Voilà, et donc c'est un contrôle abstrait, c'est-à-dire ce ne sont pas les citoyens qui peuvent évidemment saisir le Conseil. Dans le cas du contrôle a posteriori, ça peut le souffler, pardonnez-moi, la métaphore culinaire est un peu retombée depuis 2010. Alors, on peut pas dire qu'il est essentiellement, mais ce qui peut-être passionne plus en ce moment les gens, parce que le Conseil constitutionnel n'intéressait pas autant, et les journalistes et les citoyens, c'est effectivement ce rôle de protecteur des libertés via la question prioritaire de constitutionnalité. Même s'il était avant, je précise quand même.
Pierre Jox, je disais que vous aviez été membre de cette vénérable et discrète institution entre 2001 et 2010. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous disiez, pendant ces 9 ans, c'était quoi votre vie de conseiller constitutionnel? Quand on est membre du Conseil constitutionnel, on y va tous les jours. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement? C'est quoi le travail d'un conseiller constitutionnel?
D'après ce que j'ai vu pendant 9 ans, C'est comme partout, il y a des gens qui sont au bureau tous les jours, d'autres qui sont très rarement, des gens qui travaillent beaucoup, d'autres qui ne travaillent pas du tout. Et puis entre les deux, il y a des gens qui vont le plus souvent au bureau, qui travaillent moyennement, etc. Il y a des gens qui ne faisaient rien, qui arrivaient à 10h moins 5 au début de la séance, qui trouvaient le projet de décision sur la table et qui opinaient tranquillement. D'autres qui travaillaient beaucoup, moi par exemple, j'en ai connu d'autres, des gens comme Canivet, comme Colliard, comme plusieurs d'entre eux, Delon de Saint-Marc.
Qui viennent de quitter le conseil.
Oui. Donc c'est très très inégal. Il y a des gens qui sont des juristes professionnels, comme ceux que je viens de citer moi-même, d'autres qui sont des gens qui sont venus du milieu politique et qui apprennent beaucoup de droit pendant leur passage au conseil constitutionnel. Mais je m'excuse, il faut quand même revenir sur un point, c'est que, d'après ce que vous avez dit, comme tout le monde n'est pas étudiant en première année de droit, le conseil constitutionnel de Debré, il est fait, il est à la disposition, il le dit. De quatre personnes. Il n'y a que quatre personnes qui peuvent le saisir. Le président, le premier ministre et le président des deux assemblées. Et pourquoi faire? Pour cadrer les débordements du Parlement, pour empêcher le Parlement. Debré, parlant du régime parlementaire, c'est à mourir de rire. Je pense que vos étudiants rigolent. Enfin, rigolent oui. En deuxième année, peut-être.
Vous voulez dire que c'est un peu le bras armé de l'exécutif?
C'était.
À l'époque. À l'époque. Oui. Il appelait le chien de garde du Parlement.
Voilà, c'est le chien de garde. C'était le carcan, c'était le.
Voilà.
Oui, c'était le chien.
Il faut surveiller.
Plutôt, oui. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé, on voit dans la fontaine.
Mais est-ce que aujourd'hui, c'est pas tout l'inverse aujourd'hui, justement?
Non, aujourd'hui, c'est complètement différent, puisque la saisine est ouverte à des parlementaires. Un nombre. La réforme de 1974, j'étais député quand elle était. On était absolument enchantés. Oui. On n'arrêtait pas de saisir le Conseil constitutionnel. Mais ça, c'était déjà une ouverture assez large, puisqu'il suffisait d'avoir quelques dizaines de députés ou de sénateurs. Il fallait quand même être un groupe conséquent pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Maintenant, dans tout procès, à tout moment, de toute instance, dans toute juridiction française, on peut être amené à tenter de saisir le Conseil constitutionnel. Il faut encore passer une étape, mais c'est une ouverture très large.
On parlera de la QPC dans un instant.
Alors, sur la façon de travailler...
Sur la façon de travailler.
Il y avait des gens que ça embêtait, qui étaient là parce qu'ils étaient contents. C'était un peu une espèce de sinécure.
Vous êtes payé, d'ailleurs.
Très bien
vous
payé, avez un... payé comme un président de chambre à la Cour des comptes.
C'est-à-dire
C'est le sommet de la hiérarchie.
Ça représente combien d'argent par mois, ça?
Maintenant, ça doit être à peu près 12 000 euros par mois. Donc, c'est très bien payé pour la fonction publique. On ne peut pas gagner plus.
Et on a des collaborateurs, on a une équipe
autour
de soi.
Zéro collaborateur, lamentable système français. En Allemagne, à la cour de Karlsruhe, ils ont des équipes. À la Cour suprême, n'en parlons pas. En France, pour empêcher évidemment les membres du Conseil constitutionnel de travailler un peu mieux, parce que si on n'est pas juriste, on est perdu, il y a zéro collaborateur personnel. Il y a quelques fonctionnaires ou magistrats très bons au service de l'ensemble. Bon. Mais une des différences fondamentales de la Cour constitutionnelle allemande ou de celle qui existe à travers l'Europe ou de la Cour suprême et le système français, c'est qu'on dit aux juges travaillez si vous voulez, mais on vous aidera pas. C'est un système tout à fait choquant qui ne résistera pas à quoi? À la nouveauté qui est que la QPC devient une dimension pas prédominante mais tellement importante qu'on ne peut pas continuer à laisser travailler des gens seuls sur des questions juridiques de plus en plus complexes et nombreuses.
Alors justement, on va un peu revenir sur cette question des rapports entre le Conseil et la question politique, et on va écouter un ancien Premier ministre qui tangue un peu contre ce Conseil. C'était au Congrès à Versailles en 1993, et on écoute Édouard Balladur.
Depuis que le Conseil constitutionnel a décidé d'étendre son contrôle au respect du préambule de la Constitution, cette institution est conduite à contrôler la conformité de la loi au regard de principes généraux, parfois plus philosophiques et politiques que juridiques, quelquefois contradictoires et de surcroît conçus, parfois, à des époques bien différentes de la nôtre. Quoi qu'il en soit, il est légitime pour le pouvoir constituant, dont vous êtes les dépositaires, de dire lui-même quel est le contenu exact d'une disposition constitutionnelle, nul n'est aussi qualifié que lui, c'est-à-dire que vous, pour le faire.
Alors Pierre Jox, on entend Édouard Balladur, on ne va pas rentrer dans les dispositions techniques de son discours, mais il y a une dimension qui est tout à fait frappante, c'est qu'il dit à un moment donné que le Conseil constitutionnel est tenté de mettre en avant des principes philosophiques et politiques plus que juridiques. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation? Est-ce que vous pensez que le fait que le Conseil ait pu prendre des positions philosophiques, politiques, par exemple pour faire valoir les principes de la République, était une bonne évolution, une mauvaise évolution? Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout système juridique a des bases philosophiques. Le système juridique français, il a des bases philosophiques très anciennes, même de l'Ancien Régime, un certain nombre de, même de droit romain, un certain nombre de choses. Et puis il y a la Déclaration des droits de l'homme et un certain nombre de textes, tout à l'heure, qui ont un fondement philosophique, qui donne une armature de pensée. Par exemple, si on prend le droit pénal, c'est une évolution philosophique qui fait que petit à petit, on a considéré que torturer les gens, c'était pas normal pour avoir des renseignements, que couper les têtes, c'est bon. Donc il y a une dimension philosophique. Alors évidemment, Balladur est un très bon juriste, n'a jamais été très philosophe. Il s'est fait une philosophie parce qu'il s'est fait beaucoup battre dans la vie, mais l'idée, vous entendez sa voix ampoulée d'ailleurs, ça lui plaisait pas beaucoup que il puisse avoir appel à des sentiments, à des inspirations philosophiques, quand on pense à la politique qu'il menait, qui était une politique très réactionnaire.
Alors justement, il y a un agacement un peu de la sphère politique, des fois que le Conseil prenne ce pouvoir. On a pu être agacé aussi contre Jean-Louis Debré.
Un agacement de Balladur, mais la Balladur
oui,
n'est pas du seul. Là.
Nicolas Sarkozy s'est agacé du rôle de Jean-Louis Debré.
Ah, je ne mets pas sur le même plan Balladur et Sarkozy, parce que Sarkozy, lui, il a eu une action politique extrêmement agressive à l'égard d'un certain nombre de lois qui avaient été justement entérinées par le Conseil constitutionnel, par exemple, au droit du pénal des mineurs, au droit pénal des enfants. Si je suis devenu avocat des enfants, c'est parce que j'ai vu en 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, Sarkozy systématiquement attaquer un principe de droit du pénal des mineurs, qui est un droit adapté à la jeunesse, qui reposait sur des réformes très anciennes, qui avaient été élevées au niveau de principe constitutionnel tiré des lois de la République, c'est-à-dire l'idée qu'on a vu ça dans les lois de la République depuis 50 ans, par conséquent c'est devenu un principe de valeur constitutionnelle. Sarkozy, lui, c'est un ennemi du droit. Balladur n'était pas un ennemi du droit, c'était un bon juriste, un juriste conservateur. Il était un ami de la conservation, mais il n'était pas ennemi du droit, donc il faut pas les mélanger tous les deux.
Vanda Mastor, professeur de droit constitutionnel, sur cette question justement de la politisation du Conseil constitutionnel, que ce soit la politisation des décisions ou que ce soit la politisation de sa composition liée évidemment aux personnalités qui sont choisies. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cette accusation en tant que spécialiste de l'institution ?
Je réponds, ça ne va pas plaire à Monsieur Jox, mais que ça me désespère et plus les années passent, plus je suis tellement désespérée que je ne fais plus que du droit comparé. Je ne parle pas des êtres, hein. C'est plusieurs choses. Déjà, il faut bien comprendre que le Conseil constitutionnel est très spécifique dans le paysage européen. Mmh. Aucune autre cour constitutionnelle ne fonctionne comme lui. Et il faut qu'on arrête de toujours avancer l'argument. Mais c'est normal, au départ c'était qu'un conseil, l'empreinte de Gaulle, etc. Nous sommes en 2016, il faudrait qu'on arrête de présenter toujours les choses de manière aussi archaïque, premièrement. Deuxièmement, en Europe, si vous voulez, pour être bref, bien sûr, il n'y a qu'au Conseil constitutionnel qui existe, comme vous le savez, les membres de droit, qui sont les anciens présidents de la République. Ça choque tout le monde, mais ils sont toujours là. Bon. Deuxièmement, la seule juridique... Oui, concrètement, il n'y en a plus qu'un. Deuxièmement, les juges sont souvent choisis par les parlementaires, mais pas par les présidents dans les autres pays européens. Donc il y a un vote des assemblées. Et puis troisièmement, c'est le seul pays où on n'exige aucune qualification. Alors bien sûr, on me répond toujours, mais dans les faits, ils ont tous été diplômés. Monsieur Fabius, sauf erreur de ma part, a commencé sa carrière au Conseil d'État. Il était juge. Mais au bout d'un moment, nous, juristes, nous sommes attachés à la règle de droit. Et dire toujours, mais dans les faits, c'est pas mal, il y a quand même beaucoup de juristes. Sur le papier, si vous voulez, on n'empêchera jamais, dans l'esprit des citoyens, de gommer cette politisation qui est bien sûr, à mon avis, de plus en plus excessive.
Alors, politisation, mais dans sa composition, est-ce que vous diriez que du coup, le Conseil ne fonctionne pas bien pour cette raison-là ? Est-ce que, par exemple, le fait que ses membres ne soient pas forcément qualifiés a une conséquence négative sur son action ?
Disons qu'il a un très bon service juridique, il a un très bon secrétariat général, il a un très bon service documentaire. Comme l'a dit Monsieur Jox tout à l'heure, c'est un des seuls pays au monde où les juges n'ont pas d'assistants. Selon les pays, on peut dire référendaires, l'eau claire, etc. Donc... Par contre, je peux vous assurer que ces services-là marchent extrêmement bien. Mais certains juges, je pense, il suffit de lire le livre de Madame Schnapper pour s'en rendre compte, se sont dépossédés par les services juridiques. Et moi, ce qui me manque, je suis à titre personnel très très attachée à une vraie motivation des décisions de justice, le Conseil constitutionnel motive très mal, voire pas, ces décisions. Et puis pour parler de la politisation, je finis sur juste une idée. Je pense que l'image du Conseil constitutionnel à l'étranger est aussi importante. Mmh. Les symboles sont importants, mais à l'étranger, les étrangers sont effarés. Quand on leur dit qu'au Conseil constitutionnel, il y a des anciens ministres, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens préfets, des anciens premiers ministres, deux tout de même, ils sont effarés. Ils nous disent, mais vous, constitutionnalistes, vous ne battez pas pour le critiquer. Ben, oui, on le fait.
Pierre Jox, vous répondez quoi avant demain matin ?
Non,
vous, ancien ministre nommé au Conseil constitutionnel.
Non, moi, ancien ministre, attendez, ma vie professionnelle, c'est la magistrat. Alors j'ai été élu député, j'ai été réélu député, réélu encore et occasionnellement nommé ministre. Ça ne m'a pas tout d'un coup gommé toute ma vie professionnelle.
Donc vous êtes d'accord avec Vandamastor sur ce,
sur la remarque. Je suis d'accord avec Vandamastor sur beaucoup de choses, sauf sur un point. On ne peut pas dire qu'un homme politique, parce qu'il a été magistrat, n'est plus magistrat quand il a été élu.
Ah oui, ça je n'ai pas dit cela.
Ah
ça,
non,
je ne
l'ai pas dit, mais on pourrait le comprendre de ce que vous avez dit. Donc je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est un cas sans... Il n'y a pas d'autre exemple en Europe. Par exemple, les opinions différentes... Les opinions différentes, c'est-à-dire que dire, dans telle décision qui a été prise, là, j'en ai décrite quelques-unes dans mon livre, tout le monde n'était pas d'accord, il n'y avait pas l'unanimité. Par exemple, pour mettre des enfants en prison pendant 4 jours pour des vétilles, tout le monde ne considère pas que ce soit normal. Bien. En France, l'opinion différente, c'est-à-dire faire publier comme à la Cour suprême des États-Unis.
Dont on va parler dans un instant.
Comme à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Ce qu'on appelle l'opinion différente, c'est-à-dire que ça a été décidé, mais monsieur un tel ou madame une telle a décidé pour sa part à... C'est très important. Comment ça se passe?
À voter contre, vous voulez dire?
Non, pas voter contre. Ah non, ça serait trop simple.
N'étais pas d'accord, oui.
Non. Mais c'est ça, personne ne le connaît, ça.
Eh bien, expliquez-nous, justement.
À un moment du débat, moi, je l'ai fait. J'ai dit, voilà, je ne suis pas d'accord avec les décisions qu'on nous propose. Voilà la proposition de décision que je fais. Elle va être rejetée ou approuvée. Si elle est approuvée, elle sera la décision du Conseil. Si elle est rejetée, ben elle sera l'opinion dissidente. On saura que ce débat a eu lieu. C'est comme ça à Washington. C'est comme ça, attendez, la Cour suprême aux États-Unis. Il y en a une dans chaque État. C'est comme ça à Washington. C'est comme ça à Karlsruhe. C'est comme ça en différents endroits. Et en France, c'est interdit. C'est pas vraiment interdit parce qu'en fait, moi, je l'ai fait. Et j'ai pas été poursuivi. Hein. Pourquoi? Parce que c'est tellement naturel qu'on puisse connaître le point de vue d'une opinion dissidente que je pense que ça va venir. Malheureusement, j'ai appris que Fabius était contre, mais il va changer d'avis quand il aura siégé quelques mois.
Vandamastor, un mot, parce que c'est votre spécialité aussi, cette question
c'est
des
mon,
opinions.
C'est mon sujet de thèse de doctorat, les opinions séparées. Oui. Bah, écoutez, je... Bon,
c'est très partagé hein, là-dessus.
Pas que c'est partagé, c'est que nous sommes très 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 peu à les défendre. Moi, reste convaincue. Je parle de la France, que c'est une chose qui doit arriver. Je suis de plus en plus convaincue que ça n'arrivera pas. Pour une chose principale qui m'attriste profondément, c'est que l'argument principal qu'on m'avance, c'est toujours celui de la tradition, qui est un argument qui est très fort en France. Et ces opinions séparées sont utilisées, Monsieur Jox l'a rappelé, en Allemagne, mais aussi en Espagne, au Portugal, en Belgique.
Enfin, alors, ce que je vous propose, Vandamastor et Pierre Jox, c'est de nous retrouver dans un instant pour parler non pas de la tradition, mais de l'avenir, de aussi comment peut évoluer le Conseil constitutionnel. Mais puisqu'on en parlait déjà un petit peu, on va se pencher justement sur la Cour suprême américaine. C'est la séquence internationale de l'Atelier du pouvoir.
France Culture, l'Atelier du pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Dans la séquence internationale de cet atelier du pouvoir consacré cette semaine au Conseil constitutionnel, nous avons décidé de nous pencher sur une institution à laquelle on le compare souvent, la Cour suprême des États-Unis. Depuis la mort de l'un des 9 juges de la Cour, le conservateur Antonin Scalia, le 13 février dernier, la nomination d'un successeur par Barack Obama défraie la chronique politique aux États-Unis. Alors, pour comprendre l'enjeu d'une telle nomination et plus généralement, s'interroger sur la singularité du rôle de la Cour suprême et de ses pouvoirs, je reçois aujourd'hui Elisabeth Zoller. Bonjour Elisabeth Zoller.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes professeure de droit public à l'Université de Paris Panthéon Assas, directrice du Centre de droit public comparé, spécialiste de la Cour suprême. Vous avez publié notamment « Les grands arrêts de la Cour suprême », un ouvrage paru chez Dalloz en 2010 et devenu depuis un classique. Alors, on compare souvent le Conseil constitutionnel français à la Cour suprême. Est-ce que c'est justifié?
Oui et non. Oui, dans le sens que la Cour suprême est, comme le Conseil constitutionnel, une gardienne des droits et libertés. Non, dans la mesure où il y a tout de même 2 différences majeures qui la séparent de notre institution. D'abord, elle est toute seule. La Cour suprême, c'est One Supreme Court. Vous avez effectivement une institution qui s'occupe des droits et libertés de manière globale, de manière générale, en droit privé, dans les rapports entre personnes privées, par exemple en droit du travail, et en droit public, dans les rapports entre l'État et les individus, par exemple en matière de police, d'actes de police. Il y avait une deuxième différence que je voudrais quand même ajouter, parce qu'elle est importante, c'est que la Cour suprême, les citoyens, ont un accès direct à la Cour suprême. Ils n'ont pas un droit systématique à être accepté, que leur affaire soit acceptée, mais ils n'ont pas besoin d'attendre ou de passer par des filtres. Ils ont un système de recours à la juridiction constitutionnelle qui est largement répandu dans les pays européens et en particulier en Allemagne.
Alors, quels sont ses pouvoirs, justement, cette Cour ?
Alors, concrètement, ses pouvoirs, la principale fonction de la Cour suprême, c'est d'assurer, ça va peut-être décevoir un peu les auditeurs, parce que c'est, mais il faut quand même que je dise la vérité, c'est d'assurer l'uniformité du droit fédéral. C'est-à-dire que les États-Unis constituent un État fédéral composé de 50 États qui ont chacun leur système juridique, chacun leur système de droits et libertés, et il est bien évident que il y a des différences de l'un à l'autre. C'est un peu, si vous voulez, en ce sens que la Cour suprême se rapproche de la Cour européenne des droits de l'homme. Laquelle Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, a beaucoup regardé la jurisprudence de la Cour suprême. Mais elle ne fait pas qu'unifier les droits et libertés, elle unifie aussi le droit législatif. Toutes les lois qui sont votées par le Congrès, par exemple, sont unifiées par la jurisprudence de la Cour suprême.
Alors, on a beaucoup parlé de la Cour suprême en disant que c'est une institution très politisée dans ses nominations, mais aussi sur ses arrêts relatifs à la question des mœurs, par exemple. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, je vais prendre les deux points. Dans ses nominations, elle est composée de juges, elle n'est pas composée de professionnels de la politique. Elle n'est pas composée de hauts fonctionnaires. Il n'y a pas d'ancien secrétaire d'État qui siège à la Cour suprême. John Kerry n'aurait jamais été pressenti par le président Obama pour être Chief Justice.
Et sur la politisation des enjeux de mœurs, par exemple, on l'a vu censurer les dispositions sur l'avortement.
Oui, bien sûr, mais il faut bien comprendre de quelle politisation il s'agit. C'est pas du tout la politisation droite-gauche que nous connaissons en France. Aux États-Unis, le principal enjeu, c'est de savoir qui est compétent. Est-ce que c'est l'Union ou est-ce que ce sont les États ? Et dans le cas, par exemple, du mariage pour tous, la question essentielle était de savoir est-ce que le mariage pour tous doit être un droit garanti par le gouvernement fédéral ou bien est-ce que ce doit être un droit qui est éventuellement garanti par les États. Certains États l'accordaient, d'autres États ne l'accordaient pas. Et la question, l'arrêt Obergefell contre Hodges, qui a été la grande affaire jugée par la Cour suprême à la session 2014, elle a tranché cette question. Et elle a considéré que, sur la base du principe d'égalité des droits, on ne pouvait pas admettre que des citoyens de préférence homosexuels puissent se marier, par exemple, à New York, mais qu'ils ne puissent pas se marier au Kentucky.
Maintenant qu'on comprend un peu mieux son fonctionnement et son rôle à cette Cour suprême, qu'est-ce qu'on peut dire que cette Cour nous dit justement du système politique américain et de son évolution aujourd'hui ?
Elle nous dit que les États-Unis sont une démocratie constitutionnelle, c'est-à-dire elle n'est pas une démocratie autoritaire, c'est-à-dire que le peuple se gouverne lui-même. L'initiative vient toujours du peuple aux États-Unis, toujours du peuple. Et la Cour suprême fait en sorte que les initiatives du peuple prennent place, s'intègrent dans le respect de la Constitution.
Alors, dans ce que vient de dire Elisabeth Zoller, j'ai notamment retenu une expression. Vous disiez, Elisabeth Zoller, que les États-Unis permettent l'accès direct du peuple à la Cour suprême. Ça fait écho à une archive qu'on voulait vous faire écouter. Après, je voudrais vous faire réagir, vous, Pierre Jox, parce que vous avez bien connu cet homme. C'est François Mitterrand qui s'exprimait, c'était le 14 juillet 1989, et il disait vouloir justement permettre aux Français de saisir directement le Conseil constitutionnel. On écoute François Mitterrand.
Personnellement, je serais partisan d'une révision constitutionnelle qui permettrait à tout Français de saisir le Conseil constitutionnel s'il estime ses droits fondamentaux méconnus. Bien entendu, il faudrait associer les institutions existantes, Conseil d'État, Cour de cassation, pour la démarche qui conviendrait. Ce serait un très grand progrès démocratique en retournant à la base et en permettant en somme à chaque Français de ne pas s'adresser à des intermédiaires, mais à dire lui-même, mon droit fondamental, liberté, égalité, tout ce qui est contenu dans les grands principes inscrits dans la Constitution, il est méconnu, il est transgressé, eh bien, je demande justice moi-même.
Alors, ce qu'on écoute là, finalement, ce que dit Mitterrand là, ça annonce d'une certaine façon la QPC, cet accès direct des citoyens au Conseil constitutionnel. Est-ce que cette réforme de 2008, elle est pleinement réalisée ou c'est un peu une illusion, Pierre Jox ?
Non, Mitterrand était député comme moi-même quand la réforme de 1974 a donné la saisine du Conseil constitutionnel à un groupe de députés ou de sénateurs. Donc, on l'a vécu comme un progrès formidable. Là, Mitterrand évoque un pas de plus. Je pense qu'il pensait plutôt au modèle Cour suprême des États-Unis que vous évoquez qu'à la QPC. Mais la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité qui peut être posée à l'occasion d'un procès, d'une affaire en justice, et qui est filtrée, en effet, elle est filtrée par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, est un progrès dans la même direction. Donc c'est un cheminement assez lent. Simplement, tout en respectant beaucoup les opinions et surtout les analyses de Mme Soler, je voudrais dire que toutes les initiatives légales aux États-Unis viennent du peuple. N'oublions pas le Patriot Act. C'était pas vraiment une initiative populaire et on connaît les conséquences dévastatrices que ça a eues sur les libertés publiques aux États-Unis.
Vanda Master, juste pour rester sur la question prioritaire de constitutionnalité. Je crois qu'il y a eu plus de 530 questions de QPC depuis 2008. C'est Jean-Louis Debré qui le rappelait dans une émission sur France Inter il y a quelques jours. Mais est-ce qu'on peut dire que les filtres pour un citoyen, pour contester une loi, sont trop nombreux? En d'autres termes, est-ce que la QPC, c'est un peu une usine à gaz? Le principe est bon, mais en réalité, si vous voulez vraiment saisir le Conseil, c'est très difficile. Est-ce que vous pourriez dire ça?
Usine à gaz, non. Je n'aime pas l'expression. Déjà, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel était la dernière juridiction en Europe à ne pas permettre aux citoyens d'accéder de manière indirecte ou directe à cette juridiction constitutionnelle, ce qui est, nous avons quand même un retard qui est absolument considérable. Alors même, vous avez entendu François Mitterrand, que les intellectuels, Georges Vedel notamment, dès les débuts des années 80, plaidaient pour un tel contrôle. Alors, si vous voulez, la réforme a été présentée de manière fausse, puisque notamment Nicolas Sarkozy disait « je vais permettre aux citoyens de saisir directement le Conseil constitutionnel ».
Et en fait
ce n'est pas le cas. Dans l'esprit des gens, ils pensaient que le citoyen pouvait saisir le Conseil directement, même si c'est très rarement le cas, ceci dit, dans d'autres juridictions analogues. Il s'agit d'un recours indirect. À l'occasion d'un procès, comme l'a dit M. Jox tout à l'heure, un citoyen peut contester une disposition législative qu'on entend lui opposer, arguant du fait que cette disposition viole l'un des droits et libertés que la Constitution garantie. Et il a commencé à le dire tout à l'heure, un filtrage effectivement, un double filtrage même opéré devant cette première juridiction, puis ensuite au niveau des deux cours suprêmes en France, Conseil d'État et Cour de cassation.
Et ça met du temps concrètement pour voir une demande prise en compte?
La moyenne, c'est 3 mois. Enfin, c'est assez rapide, hein, si on compare avec les délais de jugement, on va dire, des juridictions ordinaires. Mais ça reste une question préjudicielle, si vous voulez. Ce n'est pas un recours direct.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour améliorer le fonctionnement du Conseil constitutionnel? Pierre Jox, je sais que vous regardiez, vous le disiez avant cette émission, avec une certaine admiration, le fonctionnement, par exemple, de la Cour de Karlsruhe en Allemagne. Est-ce qu'il y aurait des choses,
le fonctionnement dont... le recrutement. Radicalement.
C'est d'abord le recrutement pour vous.
Bien sûr. Radicalement, là je suis d'accord avec vous, radicalement composer la Cour constitutionnelle, le jour où elle existerait, de magistrats et de professeurs de droit, c'est-à-dire de juristes professionnels qui ont passé leur vie, puisqu'on nomme pas généralement des jeunes gens là. C'est le cas en Allemagne. En Allemagne, ce ne sont que des magistrats professionnels qui sont magistrats depuis une trentaine d'années au moins, et quelques professeurs de faculté qui ont derrière eux. Et deuxièmement, ce sont des gens qui sont nommés de façon transparente, puisqu'on sait très bien que ceux qui sont nommés par la gauche, ceux qui sont nommés par la droite, le résultat d'ailleurs c'est que la gauche ne présente pas des gauchistes et la droite ne présente pas des gens d'extrême droite. Le résultat c'est qu'on a un assemblage de juristes professionnels, de magistrats, de magistrates et de professeurs qui donnent un ensemble, quelque chose, c'est ça qu'il faut, difficile à comprendre pour les... Une juridiction, c'est pas seulement la somme de quelques individus. C'est des carrières, c'est des métiers. Moi, ma carrière, c'est une carrière de magistrat. Quand j'avais 28 ans, je suis devenu magistrat. Après, j'ai cessé, je suis revenu, etc. Donc, une juridiction, ce sont des gens qui ont fait métier de faire du droit. Et pas qui arrivent comme ça par hasard. Mais je ne dis pas ça par rapport à des membres actuels du Conseil constitutionnel ou qui en sortent. Canivet, qui était premier président de la Cour de cassation, Denoît de Saint-Marc, vice-président du Conseil d'État, Fabius, qui à l'origine était au Conseil d'État, ce sont des gens qui, comme moi et comme quelques autres, ont consacré leur vie au droit.
On a Master.
Oui, j'ajoute, il n'y a pas qu'en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, pour ne citer que ces pays, c'est une obligation normative. Il faut que les membres des cours constitutionnels soient des juristes expérimentés, ayant fait au minimum des études de droit, d'où le grand nombre de professeurs de droit qui siègent dans les cours constitutionnels européennes.
Ça, c'est pour la question du recrutement, mais sur le fonctionnement, sur les prérogatives du Conseil constitutionnel, est-ce qu'il y aurait des améliorations ou des réformes à faire? Elisabeth Zoller, après vous, Pierre-Jacques.
Ouais. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Vanda Master. C'est d'abord sur le plan du fonctionnement, c'est une meilleure motivation.
Motivation, c'est explicitation, publicisation des décisions.
Que l'on comprenne tout de même les raisons
plus
pour
de
lesquelles le Conseil va décider dans tel ou tel sens. C'est extrêmement sec, c'est extrêmement indigeste, les décisions du Conseil constitutionnel. Et vous savez, on s'en rend compte quand on a l'occasion d'en parler avec les jeunes, nos étudiants. Nos étudiants sont infiniment plus intéressés par les motivations de la Cour de Karlsruhe ou par les motivations de la Chambre, de la Cour suprême des États-Unis que par celles du Conseil constitutionnel qui paraissent un morceau de pain sec.
C'est même un repoussoir pour nos étudiants.
Ah, c'est vraiment un repoussoir.
Oui, merci. Il faut vraiment que vos auditeurs comprennent ça, les décisions. C'est scandaleux dans un état de droit, dans une démocratie. Le juge doit expliquer à quiconque, l'auditoire direct ou indirect, universel ou restreint, les raisons de sa prise de décision. Je juge dans un sens A pour telle ou telle raison. Et le Conseil constitutionnel soit ne le fait pas, soit le fait de manière extrêmement sèche, lapidaire ou elliptique.
Pierre Jox.
La Cour allemande, comme la Cour européenne des droits de l'homme, dans une décision, commence par décrire les faits. Ensuite, elle analyse les problèmes juridiques. Souvent, elle détaille les différentes possibilités, ce qui laisse ouvert la porte aux opinions différentes. Et enfin, explique ce qu'elle décide et pourquoi elle le décide. Sur le fonctionnement, un autre exemple, mais ne croyez pas que j'en ai gardé un mauvais souvenir. J'étais tellement souvent minoritaire dans une assemblée que je sais ce que c'est qu'être minoritaire. Au Conseil constitutionnel, j'y étais déjà 9 ans. Je travaillais beaucoup, tous les jours, tous mes dossiers, j'étais là. Vous savez combien de rapports j'ai eu en 9 ans ?
Dites-nous.
3.
Qu'est-ce que vous appelez un rapport ?
Eh ben, dans chaque séance, il y en avait à peu près une fois toutes les deux semaines, il y a 2 ou 3 affaires, selon les cas. Et quand il y a des saisines, c'est plus ou moins long, un membre du conseil est désigné comme rapporteur. Moi, pas jamais. 3 fois en 9 ans. Il n'y a pas de juridiction au monde dans lequel une chose pareille serait imaginable. Quand je racontais ça à mes collègues allemands, ils me disaient, mais non, je connais, vous racontez. Mais regardez, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que comme j'étais, je crois, un des bons juristes, et que je me battais sur des positions juridiques et politiques, car elles se rejoignent très souvent, surtout dans le domaine des libertés publiques, toute la vie politique, une partie de la vie politique et des démocraties, ça a été la conquête des libertés publiques. Il n'y a pas de gap entre les libertés publiques et la politique. Au Conseil constitutionnel, quand je me suis battu contre les réformes du droit des mineurs ou d'autres, comme le CP ou d'autres choses, je faisais une bataille juridique et politique. Donc, le fonctionnement, eh bien, le fait qu'il y ait un rôle, c'est-à-dire que à tout moment, il y a un certain nombre de magistrats qui sont là. On répartit les rapports à tour de rôle. Ce qu'on appelle à tour de rôle. Moi, mon tour, c'était une fois tous les 3 ans.
Et dans le même temps, Jean-Louis Debray disait récemment qu'il y a eu plus de décisions prises en 5 ans, peut-être qu'en un demi-siècle, parce qu'il y a, avec la QPC,
une augmentation du nombre de décisions. Le temps ne fait rien à l'affaire.
Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vanda Master. Merci. Pierre Jox. Merci, Elisabeth Zoller. Avant de nous quitter, comme toutes les semaines dans l'Atelier du Pouvoir, Thomas, vous avez lu un livre, et justement, je crois que c'est un livre de Jean-Louis Debray.
Oui, c'est un écho un peu décalé à notre discussion d'aujourd'hui, parce que le livre dont je vais vous parler n'est pas un livre sérieux, de juriste et tout. C'est un autre aspect. Non, c'est pas le polar, justement. C'est pas le Jean-Louis Debray, auteur de romans policiers. C'est pas non plus le Jean-Louis Debray, historien des dynasties républicaines, et notamment de sa famille.
C'est un roman polisson, cette fois-ci?
C'est pas polisson non plus. C'est un livre où Jean-Louis Debray, d'une certaine façon, a prêté sa plume à un SDF, SDF qu'il avait rencontré un jour dans la rue, pas très loin de la place de l'Étoile, avec qui il s'était lié d'amitié. Et il raconte que ce SDF, qui s'appelle Jean-Marie Rougol, il l'a reçu au Conseil constitutionnel, il a commencé à lui faire raconter sa vie. Et donc il y a au début du livre quelques scènes assez étonnantes où il raconte qu'il est là devant les jardins du Palais Royal, il lui fait visiter la salle des délibérés, l'oratoire de Marie-Clotilde de Savoie, etc. Et puis il s'installe autour du bureau, il lui fait raconter sa vie. Au début, Jean-Marie Rougol est un peu intimidé par Jean-Louis Debray, et puis finalement il accouche de son histoire et ça donne une forme d'autobiographie qui est évidemment extrêmement touchante, le récit d'une vie heurtée, d'une existence un peu cabossée, enfance solitaire, les bagarres, les mauvaises rencontres, des rencontres aussi tout à fait étonnantes dans le 8e arrondissement avec différentes stars, etc. et tout. C'est un autre aspect du Jean-Louis Debray dont on sait qu'il aime l'écriture que je voulais vous faire partager ici. Ça s'appelle Je tape la manche. C'est un beau témoignage sur la vie dans la rue et dans nos sociétés urbaines individualistes. Voilà.
Merci Thomas et merci à mes invités.
C'est vous qui le dites, Pierre Jox.
Merci. Merci Pierre Jox. C'est donc sur cette note et ce rire de Pierre Jox qu'on finit l'Atelier du Pouvoir, cette émission de Thomas Vider, Vincent Martini, préparée par Cyril Bert, réalisation Doria Zénine, à la technique aujourd'hui, Pierre Monteil. Vous pouvez nous retrouver donc en podcast, mais aussi sur le site, la page de l'Atelier du Pouvoir sur franceculture.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, mais aussi le compte Twitter, @AtelierPouvoir de l'émission. Et rendez-vous donc samedi prochain à la même heure. Et de quoi parlerons-nous, Thomas ?
On parlera des réformes du droit de la nationalité.
Eh bien, la semaine prochaine pour un nouvel Atelier du Pouvoir. Dans un instant, c'est la suite dans les idées. L'émission de Sylvain Bourbeau qui reçoit aujourd'hui Claudine Tiercelin et Joël Zask pour un hommage à Jean-Pierre Cometti, décédé le 4 janvier dernier. Bonne fin de week-end à tous sur France Culture. Thank you.